Bonjour à tous.
Voilà, bonjour à tous. C'est pas tous ceux que j'ai pas salués. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui veut bien aller dire à Léontine que si son bébé il pleure au fond de l'église, c'est pas grave. Elle peut rester avec son bébé. On va tous assumer avec joie un bébé qui pleure parce que c'est l'église d'aujourd'hui et l'église de demain qui grandit. Ce matin, donc je continue ma série de lectures dans l'épître de Paul aux Romains. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles au chapitre 4. Nous nous sommes arrêtés au verset 12, donc nous reprendrons au verset 13. Et nous lirons les versets 13 jusqu'à 29. Romains 13, 4, versets 13 à 29. Dieu a promis à Abraham et à ses descendants qu'il recevrait le monde en héritage. Cette promesse a été faite non parce que Abraham avait obéi à la loi, mais parce que Dieu l'a reconnu comme juste à cause de sa foi. Si ceux qui reçoivent l'héritage promis l'obtenaient par obéissance à la loi, la foi serait inutile et la promesse de Dieu serait sans effet. Or, la loi entraîne la colère de Dieu. Mais là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de désobéissance à la loi. Ainsi, la promesse a été faite en raison de la foi, afin que ce soit un don gratuit de Dieu et qu'elle soit confirmée pour tous les descendants d'Abraham. La promesse concerne donc non seulement ceux qui obéissent à la loi, mais aussi ceux qui, comme Abraham, croient. Abraham est notre père à tous, déclare l'Écriture. J'ai fait de toi l'ancêtre d'une multitude de peuples. Donc il est notre père devant Dieu en qui il a mis sa confiance, le Dieu qui rend la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Abraham eut confiance, il a espéré alors que tout espoir semblait vain et il devint ainsi l'ancêtre d'une multitude de peuples, selon ce que Dieu lui avait dit, « Telle sera ta descendance ». Il avait environ 100 ans, mais sa foi ne faiblit pas quand il pensa à son corps presque mourant et à Sarah, sa femme, qui était stérile. Il ne perdit pas confiance et ne douta pas de la promesse de Dieu, au contraire. Sa foi le fortifia et il loua Dieu. Il était absolument certain que Dieu avait le pouvoir d'accomplir ce qu'il avait promis. Voilà pourquoi il est dit que, à cause de sa foi, Abraham a été considéré comme juste. Mais ces mots, Dieu l'a considéré comme juste, n'ont pas été écrits pour lui seul. Ils ont été écrits aussi pour nous, qui devons être considérés comme justes, puisque nous mettons notre confiance en Dieu, qui a ressuscité d'entre les morts Jésus, notre Seigneur. Il a été livré à la mort à cause de nos fautes et Dieu l'a ressuscité pour nous rendre justes. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Un long texte. Il y a des années de ça, j'étais encore animateur en centre de loisirs ou en colonie de vacances. Et parfois, il y avait les colons qui râlaient après le règlement, les horaires à respecter ou quelque autre règle de discipline. Et je m'amusais à asseoir mon autorité en leur proposant de me battre au bras de fer pour obtenir, s'ils gagnaient, un traitement de faveur. Puisqu'ils n'avaient pas encore 16 ans, je courais bien peu de risques qu'ils me battent. Et pourtant, ils étaient nombreux à essayer et nous rigolions bien. Et nous faisions passer la frustration liée au règlement ensemble. Pourquoi est-ce que je raconte cette histoire ? Parce que Dieu, qui est bien plus intelligent que moi, sait que s'il faisait pareil avec le royaume, personne n'aurait la moindre chance d'y rentrer. Dans mon histoire, le but des jeunes était d'échapper à un petit peu de règlement de la colo. Et dans ce dont Paul parle, Il est question d'hériter du monde pour l'humanité. On verra ce que ça signifie. Comment obtenir cet héritage du monde ? Si Dieu applique la règle et la loi, alors il faut que Abraham obéisse sans commettre la moindre faute à la loi. Et s'il y parvient, non pas une journée, mais toute une vie, alors il héritera du trône du monde. Eh bien, c'est impossible pour un humain de réussir cette épreuve, comme il était impossible pour mes campeurs de me battre au bras de fer. Or, dans mon cas, cela m'amusait bien parce que je comptais sur le fait qu'ils n'aient aucune chance de me battre. Comme ça, je prenais aucun risque de leur accorder une faveur. Mais Dieu n'a pas envie de garder le monde, le trône du monde vide. Il désire sauver l'humanité, il désire restaurer l'humanité en la ramenant à sa place d'origine. En même temps, nous autres, les êtres humains, nous ne parvenons pas à être justes et bons chaque jour, à chaque heure de notre vie. Alors Dieu a choisi une autre solution que le bras de fer. Il a choisi de ne pas nous faire mériter le trône du monde, mais de nous le promettre par pure bonté, par pur amour pour nous. Reste à nous de croire qu'il va trouver un moyen, une solution, et de lui faire confiance, et d'avancer vers cette promesse. Et tout cela, on appelle cela avoir foi en lui. Nous sommes intégrés, acceptés dans le camp de Dieu sans être parfaits, parce que nous croyons qu'un jour, Dieu nous rendra parfaits par ses propres moyens à lui, et que nous marchons vers cette espérance dans notre vie, de façon concrète. De façon concrète. Je relis la deuxième partie du texte. Abraham a eu confiance, il a espéré alors que tout espoir semblait vain. Et il devint ainsi l'ancêtre d'une multitude de peuples, selon ce qu'il est écrit, selon ce que Dieu lui avait dit, « Telle sera ta descendance ». Il avait environ 100 ans, mais sa foi ne faiblit pas quand il pensa à son corps presque mourant et à Sarah, sa femme qui était stérile. Il ne perdit pas confiance et ne douta pas de la promesse de Dieu, au contraire. Sa foi le fortifia, il loua Dieu. Il était absolument certain que Dieu avait le pouvoir d'accomplir ce qui avait été promis. Quand je parle de marcher de façon concrète dans la foi, Abraham nous en donne un exemple flagrant. Paul évoque pudiquement, mais clairement, comment un homme de près de 100 ans a pu marcher vers la promesse que Dieu lui avait faite de lui donner un enfant qui devait naître de Sarah, sa femme, très âgée, elle aussi, et qui n'avait jamais pu lui donner d'enfant parce qu'elle était stérile. Comment est-ce que Abraham a marché de façon concrète ? La réponse est simple. Abraham et Sarah devaient faire l'amour et chercher à concevoir un enfant malgré leurs âges avancés. Imaginez que vous suppliez Dieu jour et nuit pendant des années de gagner une fois dans votre vie au loto. Mais que vous n'achetez jamais de ticket de métro de loto. Il y a un paradoxe. Si vous priez ardemment pour que Dieu vous donne de gagner au loto et que vous n'achetez pas un ticket de loto, ça ne va pas marcher. Vous êtes d'accord ? Si Abraham croit véritablement que Dieu peut lui donner de concevoir un enfant, lui, âgé de plus de 100 ans et sa femme stérile, mais qu'il ne va pas vers sa femme, alors c'est un exemple, je ne vous encourage pas à miser votre retraite sur ce genre de prière pour le loto, mais Cela pour dire que si Abraham a cru que Dieu allait tenir sa promesse, il a concrétisé sa foi en allant vers sa femme pour lui faire l'amour contre toute sagesse humaine. Et Dieu lui a donné Isaac. Je crois qu'il y a là beaucoup à méditer pour nous tous. Quelles attitudes, quels choix, quels discours dans nos vies mériteraient d'être réorientés pour que nous marchions pleinement vers les promesses éternelles de Dieu. On reviendra vers la fin de la prédique sur ce concret. Mais revenons au trône du monde. Déjà, est-ce qu'il n'est pas surprenant que Paul cite incorrectement les Écritures ? Si on regarde la promesse que Dieu avait faite à Abraham, on relit dans Genèse au chapitre 17, Abraham s'était vu promettre par Dieu un pays. Dieu avait dit, « À toi et à tes descendants, je donnerai le pays où tu séjournes en étranger, tout le pays de Canaan. Il sera leur propriété pour toujours et je serai leur Dieu. » Il n'était pas question d'hériter du monde entier, mais juste de la terre de Canaan. Question qui reste brûlante d'actualité aujourd'hui, malheureusement. Alors pourquoi Paul a-t-il étendu l'héritage d'Abraham au monde entier et non simplement à la terre d'Israël ? Pour comprendre cela, il faut comprendre le projet de Dieu. Qu'est-ce qu'il cherchait à vivre en passant alliance avec Abraham ? Dieu voulait, oui, se forger une nation qui allait témoigner de lui dans le monde entier, mais dans le but de gagner le monde entier. Car le monde entier était le projet de Dieu depuis le début. Lorsqu'on remonte aux premières pages de la Bible, la Genèse, nous retrouvons l'histoire bien connue de Adam et de Ève. Ils habitent le jardin. Ils avaient reçu l'autorité sur la création tout entière. Ils devaient se multiplier, avoir des enfants qui auraient eu des enfants qui rempliraient la terre de ses souveraines et de ses souverains qui œuvreraient sur la création pour la rendre encore plus belle, glorieuse, féconde. Mais vous connaissez l'histoire. Les choses ont mal tourné. Les humains furent chassés de ce paradis terrestre. Et la terre n'a pas été remplie de gloire, mais de violence. Et le trône du monde, destiné à l'humanité, est resté vacant. Le diable, profitant de la situation, s'est accaparé du pouvoir, s'érigeant en prince de ce monde, selon les Écritures. Mais Dieu avait un plan et il avait promis à Abraham qu'il ferait naître de lui un roi qui allait s'asseoir sur le trône vacant de ce monde. Et ce roi recevrait l'autorité sur le monde entier. Et Paul avait bien compris ce plan de Dieu, et avec raison, il reprend la promesse que Dieu avait faite à Abraham et l'étend en passant de Canaan à toute la terre entière. Mais alors comment ce roi a-t-il pu s'asseoir sur le trône ? Y a-t-il un humain qui a pu vivre une vie d'obéissance parfaite, qui chaque jour, à chaque heure, a obéi à tous les commandements de Dieu, sachant qu'aucun être humain né de Adam, que nous sommes, ne peut remplir ce rôle. Dieu a décidé de le remplir lui-même. Il est devenu un humain, naissant d'une femme, Marie, l'épouse de Joseph, et il s'est appelé Jésus. Jésus, c'est Dieu fait homme, et lui a accompli cette obéissance parfaite de la loi qui, pour nous, attirait que la colère de Dieu. Plus encore, Jésus s'est offert comme bouc émissaire. Il a accepté d'être condamné par Dieu à notre place, payant le prix de nos transgressions. Non seulement il a été parfaitement juste, mais il a aussi été parfaitement amour. Alors, il a reçu légitimement l'autorisation de s'asseoir sur le trône du monde. C'est ce que nous avons célébré à la Pentecôte. Et depuis ce trône, il règne sur son peuple. Et ce peuple, c'est nous, les chrétiens. Un peuple qui n'a pas une ethnie, qui n'a pas une langue, qui n'a pas un pays, mais qui habite déjà le monde entier. C'est ce que dit Paul dans la troisième partie du texte que je vous relis maintenant. Voilà pourquoi il est dit d'Abraham que, à cause de sa foi, Dieu l'a considéré comme juste. Mais ces mots, Dieu l'a considéré comme juste, n'ont pas été écrits pour lui seul, ils ont été écrits pour nous aussi, qui devons être considérés comme justes puisque nous mettons notre confiance en Dieu qui a ressuscité d'entre les morts Jésus notre Seigneur. Il a été livré à la mort à cause de nos fautes et de la ressuscité pour nous rendre justes. Jésus nous justifie. Lui nous rend justes comme Abraham, par la foi. Comme Abraham, et nous sommes des héritiers du monde comme Abraham. Non pas à cause de notre obéissance, de notre justice, de notre bonne morale, de nos bonnes actions, mais à cause de ce que Jésus a fait en notre faveur. Il nous reste à le croire et à marcher dans cette foi concrètement. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Y a-t-il ici une menace déguisée pour nous ? Une chose à faire pour ne pas perdre la promesse ? Non. Si l'Esprit de Dieu est venu en vous, il ne partira plus et il vous ressuscitera, c'est certain. Mais je vous dirais qu'il y a une chose à faire pour vivre la foi et que celle-ci soit forte dans votre vie, que celle-ci ait des racines en nous, afin de nous faire tenir et de nous secourir dans l'épreuve, qui ne manquera pas d'arriver, si ce n'est pas déjà le cas. La première chose que je vous encourage à vivre dans votre vie de chrétien, de chrétienne, c'est d'apprendre à parler à Dieu. Je ne vous dirai pas de prier, de lui parler. D'apprendre à écouter dans votre cœur la voix de l'Esprit en vous, qui vous pousse, qui vous incite, qui vous avertit, qui vous reprend, qui vous conduit, qui vous rassure, qui vous console, qui vous éclaire, qui vous apaise. Nous avons une immense prétention, nous les chrétiens. Nous sommes habités par l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas ce qu'on a célébré à la Pentecôte ? Nous sommes habités par les Saint-Esprit, ce qui fait que nous sommes chrétiens. Et si un esprit divin habite dans mon corps, et pas que dans mon cœur, doit-on être surpris qu'il puisse s'établir un dialogue entre mon esprit et l'Esprit de Dieu qui m'habite ? Est-ce que c'est stupide de le dire ? Ah, mais comment être sûr de comprendre, de savoir si c'est bien lui, si je ne me fais pas des films, si... Parlez-en entre frères et sœurs. Avancez à tâtons. Testez, cherchez, éprouvez. Écoutez cette voix, mais ne lui obéissez pas. Ah tiens, est-ce que ça pourrait être Dieu qui me dit ça ? Bon, vous avancez, vous dites, ah, c'est vrai que si j'avais écouté, ah, mais effectivement, cette intuition que j'ai eue là, ça tombait vachement bien. C'était très hasardieux. Et vous allez apprendre à la reconnaître. Elle va se distinguer. Connaissez le petit prince qui apprivoise le renard. Et à la fin, le renard lui dit « Aujourd'hui, tu n'es qu'un petit garçon parmi des milliers de petits garçons, mais si tu m'apprivoises, tu deviendras unique et tu seras différent de tous. Et pour moi, je ne suis qu'un renard parmi des milliers de renards, mais si tu m'apprivoises, je deviendrai un renard unique. » De la même manière, la pensée de Dieu, la voix de Dieu dans votre esprit deviendra unique. Soyons honnêtes, c'est un lien mystique, n'ayons pas peur du mot, un lien d'esprit à esprit qui vous unit à Dieu. Et c'est ça qui fait de nous un chrétien, une chrétienne. Vous êtes habité par l'Esprit. Alors faisons quelque chose de ce lien. Et ce sera peut-être pour vous, si vous ne l'avez encore jamais fait, le début d'une vie spirituelle incroyable. Deuxième chose qui vous aidera pour la première, de vous instruire
de vous instruire dans la pensée de Dieu, de connaître l'histoire de votre peuple, car vous êtes la descendance d'Abraham, si on en croit Paul. Cela passe par la Bible que nous apprenons à lire ensemble, que nous partageons semaine après semaine, dans les études, dans les maisons, dans les cultes. Tout cela vous forgera une nouvelle façon de penser, de voir le monde. Tout cela fera briller la lumière du Christ en vous. Et ça nous conduit à la troisième chose. Pour rester dans le concret, même si je sais que je serai très général, mais il nous faut régner. Vous êtes des héritières et des héritiers de ce monde. Donc, régnez dans ce monde. Mais régner ne signifie pas, chez nous, les chrétiens, diriger, ordonner, commander. Régner selon Jésus, notre roi, signifie servir, bénir, non pas comme des esclaves des humains, mais comme des êtres libres, ou plutôt libérés, qui veulent libérer à leur tour, des êtres pardonnés qui veulent pardonner à leur tour, des êtres aimés qui veulent aimer à leur tour. Bon, nous pourrions continuer à chercher comment vivre dans le concret de notre foi, tous ensemble. Mais ça fait déjà trois éléments intéressants à creuser dans vos vies, je pense. Et je veux conclure avec ça. Ne vous inquiétez pas d'échouer. Ne vous inquiétez pas d'avancer lentement. Ne vous inquiétez pas de commencer trop tard. Tout a été payé. La promesse de Dieu ne repose pas sur votre performance, sur votre obéissance, mais sur votre confiance que lui va œuvrer en vous. Attachez-vous à découvrir cette confiance en Dieu, car lui tiendra certainement sa promesse envers vous. Il vous aime, et votre place sur le trône est déjà réservée. Apprenons donc à servir pour régner comme le Christ, et à vaincre le mal pour être vainqueur comme le Christ. Je conclus avec ces paroles tirées de l'Apocalypse. Au vainqueur, j'accorderai le droit de siéger avec moi sur mon trône, tout comme moi j'ai vaincu et je suis allé siéger avec mon Père sur son trône. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, je pense qu'on a du mal à mesurer, à saisir la réalité spirituelle, que véritablement nous sommes liés à toi par l'Esprit. C'est quelque chose qui pourrait, devrait bouleverser ma vie, nos vies. Et pourtant, Seigneur, qu'il est difficile pour nous de saisir à pleine main que tu habites en nous et que tu nous parles et que tu nous diriges et nous conduis et nous inspires. Seigneur, il vaut mieux commencer tard que jamais. Et je te prie pour toutes les personnes qui, dans cette communauté, n'ont pas su, voulu, pu, étaient appelées, étaient instruites pour cultiver ce lien incroyable qui existe entre toi et nous, qui voudraient commencer maintenant. Que tu te précipites à leur rencontre, Seigneur, que tu aplanisses leur sentier, que tu facilites leur tâche, que tu remplisses leur vie d'une présence étonnante et que tu les enivres de toi. Pour toutes celles et ceux qui l'ont déjà connu ce lien, mais qui peut-être se sont essoufflés, que tu renouvelles l'enthousiasme et que tu reprennes cette place importante dans notre vie, comme nous l'avons chanté, Seigneur. Et puis pour ceux qui marchent déjà, chaque jour, avec ce souffle divin qui les habite et qui les anime et qui les pousse, Seigneur, et bien qu'ils transpirent de toi comme un parfum autour d'eux et inspire celles et ceux qui vivent peut-être sur ce chemin aussi et qui ont besoin d'être fortifiés. En tout cas, Seigneur, nous te bénissons et nous te louons de ce que tu as voulu nous attacher à toi, par pure grâce et non par loi. Merci parce que nous n'avons pas à mériter, gagner par nos efforts ce salut, mais que nous pouvons nous reposer pleinement dans le fait que tu vas t'occuper de tout. On te fait confiance, tu vas trouver la solution et le chemin. On se repose en toi, Seigneur. Alors que ce repos fortifie nos âmes et fortifie notre amour pour toi, parce que nous savons que tu nous aimes. En Jésus-Christ. Amen.